Bon vendredi matin tout le monde, j'espère que ça se passe bien pour vous. On a décidé de faire toute notre première heure d'émission sur la crise du coronavirus parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être dites encore ce matin. D'abord, en ce moment même, vient de débuter une conférence de presse de l'Organisation mondiale de la santé. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, l'OMS se demandait s'il n'était pas temps de déclarer l'état de pandémie. On ne l'a pas fait encore pour l'instant. Vont-ils le faire aujourd'hui? On surveille ça pour vous. C'est sûr que là, au Québec, jusqu'à maintenant, on se trouvait bien bon d'avoir évité ça. On n'avait aucun cas déclaré de coronavirus. Mais finalement, depuis hier soir, il semble qu'il y ait une personne qui a été testée positive au COVID-19. On va en discuter tout de suite. On va parler bien sûr de voyage, parce que c'est la grande question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Beaucoup parmi vous préparent des projets de vacances, se disent « bon, qu'est-ce qu'on fait? » Il y en a qui s'en allaient, qui ont annulé leur voyage. On parlera à des gens qui sont d'ailleurs en Asie. On a une collègue ici, Marie-Julie Gagnon, auteure, chroniqueuse et blogueuse, qui est en Asie malgré le coronavirus. On aura également Paul Arsenault, qui est titulaire de la chaire de tourisme Transat, directeur du réseau de veille en tourisme, qui va faire le point là-dessus. Mais d'abord, je pense que c'est important de faire le point d'un point de vue médical avec la directrice régionale de santé publique de Montréal, la docteure Mylène Drouin. Bonjour, docteure Drouin.
Oui, bonjour.
Alors, on sait ce matin qu'il y a un cas probable de COVID-19 identifié au Québec, à Montréal en particulier.
Oui, exactement. On a reçu les résultats du laboratoire de santé publique hier. Une dame qui revenait d'Iran, donc qui est arrivée le 24, et pour laquelle donc qui a consulté très rapidement, qui a été très diligente là, de s'isoler elle-même et de bien se masquer. Et donc suite à la consultation et au laboratoire, on a donc un laboratoire positif. Et là, le laboratoire est parti, les prélèvements sont partis à Winnipeg pour une confirmation. Mais nous avons déjà déployé l'ensemble des actions de protection et de retraçage des contacts. Là, on n'attend pas que le résultat revienne de Winnipeg pour être actif là, et proactif là, pour la recherche de contacts.
Et donc, ça veut dire quoi, ça, concrètement, docteur Drouin?
Bien, actuellement, on a fait donc toute l'histoire de la patiente depuis son arrivée, depuis le début de ses symptômes, son arrivée sur le vol. Donc, on a regardé un petit peu où elle est allée. Heureusement, c'est quelqu'un qui s'était, comme je le dis, isolée. Donc, elle n'est pas allée dans les transports en commun, faire l'épicerie ou dans des commerces où la population est. Donc, les contacts sont assez restreints. Donc, c'est que les membres de sa famille. Rapidement, elle est allée consulter à la clinique, mais elle était bien masquée avec des gants. Donc, le contact a été aussi très limité et on l'a transféré à un centre hospitalier. Et donc, on a aussi fait tout le parcours de la patiente au centre hospitalier pour voir si les procédures pour protéger à la fois les gens qui étaient dans la salle d'attente, mais aussi les gens, les professionnels de la santé avaient été respectés. Et donc, de l'arrivée jusqu'à son congé, incluant la désinfection après son congé, tout a été fait vraiment là, dans les règles de l'art. Donc, pour le moment, le risque est jugé faible pour les employés et les gens qui étaient dans la salle d'attente. On a mis en isolement les 4 personnes qui sont des contacts plus étroits. Et là, on attend aujourd'hui le manifeste de vol, donc la liste des gens qui étaient sur le même vol que la personne. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend les 3 rangées en avant, la rangée où la personne est, les 3 rangées en arrière, et on va contacter l'ensemble des personnes pour qu'eux aussi s'isolent pendant 14 jours.
Et ça, c'était sur le vol d'Air Canada de la Colombie-Britannique à Montréal, c'est ça?
La personne arrivait de l'Iran, c'est un vol de Qatar Airways, qui avait fait escale à Doha, au Qatar. Donc, on est en train, avec la compagnie aérienne, d'obtenir la liste là, de l'ensemble des passagers, des coordonnées, ce qui va nous permettre aujourd'hui, avec nos équipes, là, de contacter toutes les personnes et de demander qu'ils soient isolés pour une période de 14 jours.
OK. Moi, j'ai compris que cette dame donc avait fait Doha-Vancouver?
Non, elle a fait Doha-Montréal.
Doha-Montréal. OK. Oui, mais est-ce que c'est la même personne dont les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique avaient parlé?
C'est une autre personne. C'est une autre personne qui est arrivée le 24, ce lundi dernier.
OK. Parce qu'il y avait aussi une femme qui arrivait de l'Iran à qui qui a transité par Montréal, qui s'est ensuite rendu à Vancouver dans un avion d'Air Canada le 14 février.
Oui. L'ensemble des contacts pour cette personne-là, on a fait les appels dimanche dernier et les gens sont toujours en isolement.
OK. Parce que là aussi, on avait demandé aux employés concernés, aux passagers qui étaient sur le vol, les trois rangées en avant puis les trois rangées en arrière, comme vous venez de nous expliquer, là, on les avait contactés. Je trouvais ça un peu léger, je vous avoue, trois rangées en avant, trois rangées en arrière. C'est quand même des longs vols. C'est plus de 5 heures de vol, plus de 7 heures de vol. Quand on vient de Doha à Montréal, c'est quand même un très long vol. Comment vous pouvez vous assurer que la personne qui est allée aux toilettes, comment vous pouvez dire, on va juste contacter les gens qui étaient dans les trois premières et trois dernières rangées par rapport à cette personne-là?
Nous, on utilise vraiment les mêmes recommandations que le Centre for Disease au niveau international. Là, tout le monde utilise ces recommandations. On calcule que c'est vraiment un périmètre de 2 mètres. C'est sûr que...
Personne ne bouge pas, docteur.
Si la personne ne bouge pas, mais on en a tenu compte, comme cette passagère-là a fait un changement de siège. Donc, on va considérer les deux endroits où elle s'est assise durant le vol. Donc, probablement qu'on va avoir un petit peu plus de rangées à couvrir. Donc, on attend toujours... on tient compte des mouvements de la personne dans l'avion. Et la personne nous a assuré aussi qu'elle avait un masque dans l'avion. Ce qui est important aussi de dire, c'est que cette personne-là avait 80% des cas sont très léger et cette personne-là avait une symptomatologie très légère. Elle avait un peu de mal de gorge, une légère toux. Donc, elle n'était pas très malade et elle portait le masque. Parce que ce que je comprends, c'est qu'en Iran, la propagation est beaucoup plus importante. Donc, les gens ont commencé à porter le masque, là, les gens qui toussent. Mm. C'est clair que pour nous, ce 2 mètres-là, en prenant en compte si elle s'est déplacée dans la avion, pour nous, ça demeure la recommandation qui est suivie au niveau international et qu'on va continuer de suivre.
Parce que c'est sûr qu'on nous le dit souvent, hein, dans l'avion, on respire tous à peu près le même air. Donc, c'est difficile à contrôler. J'ai de la difficulté à comprendre
oui,
que vous mettiez... On a mis un bateau au complet en quarantaine, mais là, dans un avion qui est un espace un petit peu plus quand même confiné, vous l'admettrez, là, on va juste chercher quelques sièges avant, quelques sièges en arrière. J'ai de la misère à comprendre que ça soit suffisant. C'est comme si on prenait des grosses mesures pour un cas, puis d'autres petites mesures pour un autre.
Mais ce qu'on nous explique aussi, c'est on a à travers cette règle-là du 2 mètres, il y a toute la ventilation qui se fait à l'intérieur de l'avion. C'est une ventilation qui est comme à l'horizontale, là, qui se fait là, rangée par rangée en termes de circulation de l'air. Donc, c'est vraiment les experts qui ont émis les recommandations pour les passagers sur les vols. Puis c'est une transmission par gouttelette, c'est pas aérosol. Là. Donc, ce sont vraiment pencher aussi sur ces questions-là des échanges d'air à l'intérieur d'un vol.
Okay, donc,
mais nous,
le
on
fait
tient quand même compte du déplacement de la personne.
Okay.
Si elle est allée s'asseoir à un endroit, aller aux toilettes en termes de déplacement, c'est pas significatif.
D'accord. Quelqu'un pour vous, c'est les gouttelettes. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire ce que les gens doivent comprendre ici. Puis donc, c'est rassurant d'une certaine façon. C'est pas parce que t'es dans la même pièce que quelqu'un qui a peut-être le coronavirus que tu vas l'attraper non plus. Il faut avoir eu donc un contact gouttelette, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui éternue à côté de nous, mais surtout qu'on
éternue,
touche.
Ouais. Ou sur des objets, contrairement par exemple à la rougeole où là c'est très contagieux parce que c'est vraiment une propagation là qui se fait au niveau aérosol, donc c'est une propagation beaucoup plus facile et rapide. Par gouttelette, c'est vraiment les éternuements, la toux ou lorsque quelqu'un a touché un objet puis il le contamine. Donc tout dépendant si l'objet est sec, c'est quelques heures la contamination, puis si c'est un milieu humide, ben là, ça peut aller beaucoup plus longtemps, là.
Mm-hmm. Mais est-ce qu'on sait combien de temps? Vous dites c'est quelques heures, est-ce que...
Quelques heures, je pense que c'est jusqu'à 6 heures, je crois. Là,
6 heures,
là, faudrait que je retourne valider exactement, là, mais il me semble que c'est plus longtemps si c'est un milieu humide.
D'accord. Donc vous, personnellement, Dr Mylène Drouin, vous êtes directrice générale de Santé publique de Montréal. Quel est le mot d'ordre? Quel est le message que vous voulez passer à nos auditeurs et auditrices ce matin?
Mais actuellement, l'approche de santé publique demeure la même. Donc, pour les gens, il n'y a pas de changement au niveau des recommandations personnelles. On n'a pas les recommandations personnelles demeurent l'hygiène respiratoire. Si vous toussez, donc c'est évidemment là, tousser, prendre, utiliser un mouchoir, bien le jeter, se laver les mains régulièrement. Il n'y a pas de restriction d'aller dans des lieux publics ou quoi que ce soit. Pour le port de masque, ça n'est pas recommandé. C'est sûr que si quelqu'un est malade, on lui demande évidemment d'éviter de contaminer son voisin. Donc, c'est sûr, ça pourrait être recommandé, mais le port de masque n'est pas recommandé pour la population en général comme mesure de protection. Et pour nous, on est vraiment beaucoup plus, l'objectif de la santé publique, c'est de détecter les cas le plus précocement pour mettre tous les moyens en place pour éviter des cas secondaires. Donc, on a système de vigilance avec les médecins sur le terrain est accru actuellement. On prépare nos hôpitaux, évidemment, s'il y a des cas, donc pour qu'ils puissent les prendre en charge et les dépister rapidement. Et à chaque fois qu'on va avoir un cas, pour le moment, vu que c'est des cas importés, bien, on s'assure d'aller retracer l'ensemble des contacts pour limiter la transmission. Mais comme on n'a pas de transmission communautaire, on n'est pas du tout dans des mesures plus larges là, nécessaires, là, comme on peut voir par exemple en Italie ou dans d'autres pays là, où on ferme des écoles ou des quartiers même. Là. On n'est pas du tout à ce niveau-là au niveau canadien et de toute manière, les décisions vont se prendre évidemment au niveau provincial et avec l'Agence de santé publique du Canada.
Oui, bien justement, on entend différentes choses. Là. Ici, la ministre de la Santé, Danielle McCann, nous a dit hier, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En même temps, la même journée, un peu plus tôt, il y avait la ministre fédérale de la santé qui nous avait recommandé, elle nous a dit là, c'est son commentaire. En même temps, c'est pas inquiétant, mais prévoyez quand même assez de provisions pour survivre pendant environ une semaine sans avoir à sortir. Si t'es pas survivaliste, t'as quasiment envie de le devenir parce que voyons donc, on est en train de nous dire de faire des réserves. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui commencent à le faire. Il y a des gens qui m'ont écrit là-dessus, qui me disaient qu'ils étaient prêts là. Ils étaient allés faire plus de magasinage au Costco puis c'était commencé à rentrer du stock. Fait qu'on entend toutes sortes de choses, docteur Drouin. Je vous avoue que là, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On a la ministre de la Santé au fédéral qui nous dit « Hey, faites des réserves, on ne sait jamais, minimum une semaine. » Puis la ministre au Québec, ministre de la Santé, son homologue québécois nous dit « Non, non, on contrôle la situation. » Puis vous nous dites ce matin que ça n'a pas l'air de vous inquiéter plus qu'il faut. C'est des cas importés. Qui dit vraiment la vérité ici?
Ben, je pense pas que c'est une question de vérité ou de fausseté. Là, je crois que actuellement, on s'y attendait d'avoir un premier cas, et le cas qu'on a actuellement, par rapport à la semaine dernière, nous permet pas de dire qu'on va avoir une propagation communautaire dans cette semaine ou dans les prochains jours, parce que on considère qu'on a quand même la capacité d'aller retracer. Peut-être que dans 2 jours, la situation va changer, puis on va voir de par l'évolution mondiale. Mais pour l'instant, je pense pas que le message à la population, c'est d'aller faire l'épicerie pour 2 semaines pour être capable d'être en mesure d'isolement. Et si on arrive là, évidemment, on va avoir tout un système pour soutenir les gens. Si on a beaucoup de gens qui sont mis en isolement, pour être sûr qu'ils soient capables d'être approvisionnés en nourriture et tout ça. Mais je pense pas qu'on peut qu'on a les données épidémiologiques actuelles au Québec pour amener la population et dire à la population entière d'aller faire des provisions pour plusieurs semaines. Mm. Par contre, au niveau canadien, en mesure d'urgence, la recommandation générale, là, n'importe quand, c'est qu'on devrait tous être en mesure de survivre 72 heures à la maison s'il y avait du verglas, des inondations, une panne d'électricité prolongée. Donc, ça, c'est une mesure de précaution générale en sécurité civile pour l'ensemble de la population, mais dans le contexte actuel, je pense pas qu'on est rendu à demander à la population de se préparer à cette éventualité-là. Les données épidémiologiques pour le Québec ne sont pas, mais clairement, la situation peut évoluer très rapidement aussi. Donc, au jour le jour, on va informer la population pour être sûr de bien être protégé, bien être préparé. Là.
Oui, mais en même temps, vous dites que ce n'est pas une question de vérité, est-ce que c'est une question d'anxiété selon le ministre? On nous dit aussi, ayez une réserve d'analgésiques, de médicaments de prescription pour 2-3 mois aussi. Sincèrement, je pense qu'il y a des gens qui sont inquiets juste d'entendre les ministres gérer ça, là.
C'est quand même, le COVID en tant que tel, en termes de manifestations cliniques, 80% des cas sont quand même des manifestations comme un rhume ou une grippe. Et chez quelqu'un en bonne santé, clairement, là, la symptomatologie peut être très légère. Donc, c'est beaucoup pour les personnes avec maladies chroniques, nos aînés, où là, on a quand même des taux de létalité plus importants et on va souhaiter contenir la maladie puis voir à limiter la propagation parce qu'ils vont être beaucoup plus vulnérables.
Donc, c'est bel et bien des gens qui sont déjà faibles ou dont le système immunitaire est plus faible qui risquent
exactement, plus âgés. On voit avec les données, là, parce qu'ils ont fait l'analyse des cas, surtout en Chine, quand on arrive à 70 ans et plus, là, les taux de létalité sont beaucoup plus importants, vers 10%, contrairement à ce qu'on retrouve dans l'ensemble de la population, que c'est des 2%. Puis si on est chez les enfants ou même chez les adultes, c'est des taux de létalité beaucoup plus faibles. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que pour nous, il y a des populations plus vulnérables. Et même si on met des recommandations, ça va être beaucoup des recommandations aussi pour protéger ces groupes-là pour lesquels on le sait que la sévérité de la maladie va être plus importante. Mais il faut garder en tête que la symptomatologie, c'est comme une grippe. C'est la même symptomatologie. Puis actuellement, nos hôpitaux sont pleins aussi de personnes qui ont la grippe. Les gens consultent. On a eu, pendant le temps des fêtes et encore aujourd'hui, des gens qui ont le virus de l'influenza.
C'est le H1N1 en ce moment, c'est quoi?
Ah, il y a plusieurs souches, il y a trois souches en circulation cette année. Mais clairement, c'est pour faire un peu l'élément de comparaison où on est quand même face à un virus qu'on connaît moins, qui se propage très rapidement, qui a un taux de létalité plus élevé que la grippe, mais moins élevé que ce qu'on a eu dans le SARS. Et là, on arrive à comprendre que les groupes, les personnes plus âgées, maladies chroniques, sont plus touchées et c'est vraiment vers ces personnes-là qu'on va essayer de mettre des mesures pour réduire la mortalité.
Donc, je comprends, Dr Drouin, ça vous inquiète plus quand même, donc ce coronavirus que les souches de grippe auxquelles on est plus ou moins habitué.
Bien, les souches de grippe, on y travaille année après année, puis on a un vaccin aussi, ce qui nous permet, avec même si l'efficacité n'est pas à 100% du vaccin, pour les groupes à risque qui se font vacciner, on arrive à réduire donc la pénétration de la grippe dans ces groupes-là, ce qu'on n'a pas pour le coronavirus actuellement. Mmh. Puis il y a quand même encore des zones de connaissance autour de ce virus-là qui demeurent inconnues. Donc, c'est sûr qu'on met nos recommandations à partir de la science et de ce qu'on connaît, entre autres, sur le SARS ou d'autres virus de la même famille.
Est-ce que vous regardez la série Épidémie?
Non, malheureusement, je n'ai pas le temps d'écouter la série Épidémie, mais j'en entends parler.
Votre personnage, parce que la directrice, finalement, qui s'occupe de la santé publique est jouée par Julie Le Breton. Vous devriez l'écouter, ça serait intéressant d'avoir vos commentaires là-dessus.
Je vais l'enregistrer puis je vais essayer de trouver un moment.
Vous allez voir comme c'est fascinant, comme parfois la fiction rejoint la réalité. Oui. Merci beaucoup, docteur Mylène Drouin, d'avoir pris le temps de nous parler de tout ça. Elle est directrice régionale de santé publique de Montréal. On s'est arrêté ici, on s'est un peu attardé, mais je trouvais que c'était important de bien cerner toute la question médicale avec la docteure Drouin. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Ben, je vais prendre vos commentaires, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous dit, là? Est-ce que vous êtes un peu rassuré après les propos de la docteure Drouin? Si vous aviez des plans de voyage, on va en parler des voyages, justement, avec des invités. Je vous les présente tout de suite après ceci. Nos numéros pour nous joindre, 514-790-9850. De l'extérieur de la grande région de Montréal, vous faites le 1-866-790-9850. On va discuter de tout ça ensemble après à la lumière donc de ce premier cas probable de coronavirus au Québec. Est-ce que vous êtes toujours aussi inquiet? À tout de suite tout le monde.